allez-y. Non, une seconde, je compte. Alors, 3, 4.
On ne parle pas la bouche pleine.
On ne parle pas la bouche pleine.
Une émission d'Alain Crugère.
Sortez.
Nous sommes dans les bois, nous sommes à table, dans les bois, avec une jeune chef qui est Olympe Versigny. Bonjour.
Bonjour. Et oui, dans les bois.
Alors, Pierre et le loup, Olympe Versigny, ça vous inspire beaucoup de choses ?
Ah ben, écoutez, ça m'inspire, ça me remet quelques années en avant, dans ma jeunesse. Oui, d'abord, j'adore Pierre et le loup. Et en plus, cette musique, c'est vraiment, c'est l'appel de la forêt, c'est les bruits des bois, c'est les odeurs des sous-bois, c'est les champignons, la mousse, les petits oiseaux et tout ça, les brochettes de petits oiseaux. Bon, oui, j'adore.
Alors, Olympe Versigny, vous avez eu une vocation très tôt, en fin de compte, puisque vous avez fait la cuisine à partir de l'âge de 6 ans.
Voilà, 6-7 ans, je pense que... J'ai peut-être commencé avant, mais je ne m'en souviens pas. Mais là, je me souviens très bien qu'à 7 ans, oui, j'adorais déjà la cuisine et je la faisais parfois.
Alors, vous aviez une mère qui était artiste peintre, oui. Qui vivait en Provence, et un père qui était d'origine corse.
D'origine corse, qui était avocat, qui a abandonné tout ça et qui est devenu cuisinier.
Quand vous découvrez la cuisine... Alors, c'est pas Pierre et le loup, mais c'est un autre russe, c'est Eisenstein.
Ah ben, bien sûr.
Ma mémoire chante en sourdine, Potemkine. Ils étaient des marins, durs à la discipline. Ils étaient des marins, ils étaient des guerriers. Le cœur d'un marin, au grand vent se furine. Ils étaient des marins, sur un grand cuirassé.
Alors c'est en voyant le cuirassé Potemkin que vous avez envie de faire la cuisine.
Oui, enfin, c'est avant que j'ai envie de faire la cuisine. Mais en voyant ce film, je sors du cinéma et j'ai sans doute 8 ans. Je suis immédiatement communiste. Hein, ça, c'est évident. Je brandis le drapeau rouge parce que j'ai pas supporté le fait que ces pauvres marins, on leur donne cette viande avariée.
Oui.
Et ça a été pour moi le choc du film. Voilà. Le berceau, c'est autre chose. Mais déjà, la viande avariée, c'est beaucoup.
À partir de ce choc cinématographique, vous voyez le monde en images.
Voilà, beaucoup plus qu'en musique, je le vois en images. Est-ce que ça vient de ça? Est-ce que ça vient du fait que ma maman était peintre et que enfant j'étais toujours dans ses jambes, aussi bien dans l'atelier que elle allait peindre sur le sujet. Vous savez que ma maman était née en 1912 et à l'époque on peignait comme ça, avec un chevalet, une toile, et elle était provençale. Et elle a peint beaucoup la Provence.
Et vous alliez où alors? Comment
alors,
ça se passait?
Alors, on était dans le Var, hein, dans la vallée du Gapot, et elle allait peindre à la ronde les champs de vignes l'hiver, les oliviers, les cabanons, des choses comme ça. Et moi, j'étais préposée aux côtelettes, et on prenait des sarments de vignes, je faisais le feu et je faisais cuire les côtelettes, avec une tomate sur le feu. Et ça, c'était mes premières recettes.
Et c'était bon?
C'était mieux que bon. C'est merveilleux, oui.
Est-ce que vous alliez cueillir des fraises sauvages?
Alors ça, j'ai bien cru un jour en cueillir. J'étais fort déçue parce que maman, qui adorait le cinéma et qui avait une passion pour Bergman, surtout à l'époque de ses premiers films. Donc j'allais vraiment petite, j'allais au cinéma et on m'a emmenée voir, entre autres, les fraises sauvages.
Bonjour, ma ravissante cousine. Que fais-tu ici?
Gros bêta, tu le vois, je cueille des fraises.
Est-ce qu'on peut savoir à quel heureux mortel iront ces fraises sauvages que la douce main d'une jolie jeune fille est venue cueillir discret?
Oh non, tu sais bien que c'est la fête aujourd'hui du bon oncle Aron. Toute la famille a songé à lui faire un cadeau, sauf moi. Alors je lui donnerai un petit panier de fraises, n'est-ce pas une excellente idée?
Ah, c'est une excellente idée, un petit panier de fraises.
C'est une idée extraordinaire et je pensais bien en ayant entendu le titre du film qu'il y aurait quelque chose à manger presque. Alors disons que ce film, je ne l'ai pas tellement apprécié finalement et je ne l'ai jamais revu. Mais il faudrait que je le revoie.
Vous devriez, est-ce que c'est
très beau ? Mais en revanche, il y avait tout le reste. Et puis dans ce que j'avais beaucoup aimé, c'était le septième saut. Ça m'avait plu, même jeune.
Comment ça se passe ? C'est votre père ou votre mère qui vous initie à la cuisine ?
Ma mère sûrement, plus mes grands-mères, ma grand-mère maternelle, qui était d'origine italienne et qui évidemment avait faisait la cuisine traditionnelle de pâtes, de daubes, de raviolis, de polenta, où il y avait la grande marmite comme ça sur le feu. Et puis ça faisait des grosses bulles, ça explosait comme ça dans la cuisine et elle tournait dans cette marmite avec une cuillère en bois pendant des heures. Alors maintenant, on fait plus ça du tout. Elle est pré-cuite. Mais avant, il fallait compter facilement, j'ai l'impression, au moins 40 minutes à tourner cette farine pour obtenir cette polenta absolument délicieuse.
Et elle était originaire de quelle région?
Du Piémont.
Donc elle était déjà française un petit peu.
Elle était française et je pense qu'elle était née en France.
Le goût de votre enfance, qu'est-ce que c'est?
Alors le goût de mon enfance va beaucoup plus vers le salé que le sucré. J'ai jamais tellement aimé le sucré. En revanche, lorsque j'ai 10 ans, 11 ans, je rentre en sixième, je vais en pension. Et je déteste ça, évidemment. En revanche, je prépare les gâteaux pendant 2 jours pour distribuer à mes amis au réfectoire des douceurs pendant que moi, je récupère le gras du jambon, les cornichons. Et la viande, qui n'aime pas le gras de la viande. Et moi, j'échange donc mes gâteaux contre ça. Et j'ai un souvenir merveilleux, parce que ce gras de jambon, c'est du jambon cuit, mais c'était incroyable.
Et Olympe Versigny, votre père, vous lisez des contes et légendes ?
Pas du tout, hélas. Il nous lisait les recettes d'Ali Bab, qui était un médecin qui a écrit un livre absolument extraordinaire sur la cuisine.
Je crois qu'il était ingénieur des mines.
Ah oui, sans doute. C'est une erreur que...
Et son frère, était un grand neurologue qui a donné son nom à un pavillon à la Pitié-Salpêtrière, d'ailleurs.
On peut pas dire qu'il était simple et que les recettes étaient simples. Elle faisait saliver, mais il fallait quand même.
Pourtant, ça s'appelait la gastronomie pratique.
Oui, pratique. Oui. On ne sait pas pourquoi. C'était d'un complexe incroyable. Il fallait faire cuire le lièvre pendant 2 jours avant le faire mariner. Et c'est surtout se servir de cette sauce pour refaire un autre lièvre. Donc, pour faire un lièvre, il en fallait déjà 2. Après, il fallait bien, disons, au moins un bon kilo de bonnes truffes. 500 grammes de foie gras.
Ben ça, on parle du lièvre à la royale.
Voilà, du lièvre à la royale. Et c'était comme ça, parce qu'il y avait toujours quantité de truffes et quantité de foie gras et quantité de produits et de crème et de beurre dans ces recettes.
Et Ali Bab, c'était donc Henri Babinski, qui était le frère du neurologue Joseph Babinski et qui était un passionné de cuisine et qui était aussi, j'imagine, aussi un passionné de Mille et Une Nuits. Et on va d'ailleurs écouter une version de... d'Ali Baba en son honneur.
Chico de pico, chico, chico, chico de pico, chico, cha, c'est la samba d'Ali Baba. Chico de pico, chico, chico, chico de pico, chico, cha, que le harem danse déjà. Brésilienne, non, péruvienne, non, elle n'est pas du tout de la vache. C'est la samba d'Ali Baba.
Comme nous le disions, Ali Bab était polonais. Donc, Ali Baba, ça évoque forcément pour vous aussi forcément Fernandel.
Surtout Fernandel, bien sûr. dans son film, parce que, bon, le cinéma, j'adore le cinéma.
Jacques Becker.
J'ai toujours adoré ça. Et donc, ma grand-mère italienne, après m'avoir fait une bonne daube avec la polenta délicieuse et du parmesan sec, parce qu'à l'époque, il n'était pas aussi frais qu'aujourd'hui. On le mettait jamais au frais. Il devenait très sec, très dur à râper, mais
presque
le
vert.
Goût en était bien meilleur. Et donc, après ça, on allait au cinéma. Et à l'époque, le cinéma étant permanent, c'est-à-dire qu'on rentrait, on pouvait passer 6 heures au cinéma, donc avoir le même film, évidemment. Et donc, j'ai connu ce cinéma-là, le Fernandel, Rému...
Et Bergman aussi.
Ça, c'était avant.
Je faisais les choses dans l'ordre.
L'ordre. Après, c'est Fernandel. Avant, il y a la culture et après, il y a l'amusement. Et donc, c'est vrai que ça a été mon idole du cinéma.
Et Fernandel, c'est aussi de la culture, parce que c'est la culture de la Provence. C'est Edmond Lidou, c'est aussi les griffes du curé d'Olan.
Dès les premiers froids, le lièvre se faisait rare. Il descendait vers de plus hospitaliers gagnages. C'était le moment de la migration des grives. Vêtues de leur costume de voyage d'un gris foncé, semé de traits jaunâtres, elles quittaient les régions septentrionales pour la douceur du sud. La litorne et la grive mauvie émigraient en masse vers les bois de chêne et les taillis de genévriers épineux. Dès l'aube, l'abbé Clément enfermait dans un sac de toile bise ses appelants et sa petite grive empaillée qui dormait au fond d'une boîte couchée sur du coton. Arrivé à son poste, méchante cabane mal close et camouflée de branches, il disposait ses cages et preste comme un écureuil grimpait à l'arbre. Arrivé au faîte, il salivait son doigt et après s'être enquis de la direction du vent, lissait les plumes de l'oiseau empaillé. Habilement, il le plaçait sur la plus haute branche. C'était un art. Et l'abbé Clément y excellait. Entré dans la cabane, et pour tromper son attente, il lisait son bréviaire.
Alors, les grives, oui, les fameuses grives, ça, c'est une histoire qui m'est restée, parce que toute petite, maman, donc, qui peignait, parfois, elle allait à la chasse. Alors, elle avait une carabine et elle sifflait pour faire partir les oiseaux et elle tirait en l'air. Donc, c'était... Et bien sûr, elle n'a jamais tué le moindre oiseau. Mais en revanche, les amis qui participaient à la chasse chassaient les grives. Et alors, le soir, d'abord, on les plumait. Alors, il fallait plumer ces grives, on en avait plein le nez. On les ébouillantait pas parce que ça ne se faisait pas. C'était pas bien pour la petite bestiole. Alors, on les plumait, on apprenait à la plumer. Et puis après, elles étaient enroulées d'une barre de gras, de lard gras. Et on les mettait à rôtir avec un appareil qui s'appelle, je crois que ça existe toujours, le capucin. Vous connaissez ça, le capucin?
Oui.
C'est formidable. Alors, il y a une quenouille. Parce que les grives étant un oiseau petit, on mettait ça dans la quenouille et ça tournait tout doucement à la cheminée avec le bois. Dessous, il y avait le pain grillé. Donc, le jus de la grive coulait sur ce pain grillé. Et j'étais toujours préposée au remontage de la machine. Alors, quand elle allait s'arrêter, ça faisait un petit bruit, vous savez, comme une petite clochette. Alors, je repartais près de la cheminée, je tournais la manivelle du capucin.
Et à quel moment vous vous êtes dit, je vais devenir chef?
Ben, moi, je ne me suis pas vraiment dit. C'est mon mari qui faisait sociologie à Nanterre en 68. Donc, c'était tout nouveau malgré tout. Et il ne gagnait pas beaucoup d'argent. Donc, notre fils Abel était né et il avait 4 ans. Et puis, il fallait quand même se nourrir. Donc, l'idée est venue de faire un restaurant. Mais ce n'était pas mon idée première. Moi, je voulais faire du théâtre.
C'est un peu la même chose, non?
Exactement, c'est exactement pareil. En fait, la cuisine, c'est et de la peinture, que j'adore, et du théâtre. Exactement.
Et alors, comment, Olympe Versigny, vous avez commencé votre premier restaurant? Vous étiez quasiment petite fille encore.
J'avais 23 ans, donc c'était tout, évidemment tout nouveau pour moi. Et en revanche, je n'avais pas d'inquiétude. Au début, je pensais absolument pas faire la cuisine. Je pensais qu'on trouverait un cuisinier, un chef et tout. Et ça n'a pas été le cas, parce qu'on en a rencontré un qui nous intéressait pas du tout. Et j'ai dit, je vais faire la cuisine. Puis quand on aura un cuisinier, il me remplacera. Et ça a commencé comme ça et ça a quand même duré 40 ans. Voilà.
Est-ce que vous vous souvenez des premières cartes, des premiers menus?
Alors, il y avait... je faisais des écrevisses. Parce que j'avais découvert ça dans le midi. Donc, c'était des écrevisses qui étaient vivantes, que j'achetais vivantes. Il y avait deux variétés. Il y avait les pâtes rouges. Il y avait un marchand qui s'appelait Vanikoff. Il vendait ça dans des petites caissettes. Alors, il y avait les pâtes rouges et les pâtes blanches, qui, elles, venaient de Turquie, je crois, les pâtes blanches. Et j'ai commencé donc par faire des écrevisses, mais ça, c'était tout nouveau à Paris.
Ça, c'était les recettes de votre père ou c'était...
Ça, c'était des recettes de mon père, que j'ai un petit peu changé parce que j'en ai fait au curry et à la coriandre, tout de suite, parce que j'ai toujours aimé les goûts relevés. J'ai toujours aimé le piment, même quand j'étais petite.
C'est le côté sudiste, ça?
Ça me venait d'une de mes belles-mères qui était martiniquaise. Mon père s'était marié plusieurs fois, donc ça m'a beaucoup servi parce que j'avais de tout. Une martiniquaise, il y avait aussi une chinoise, donc tout ça faisait que j'ai eu une culture de la gastronomie très jeune et très ouverte. Donc les épices, les herbes, tout ça, c'est rentré très tôt dans ma cuisine, tout au début. Alors ça, c'était les écrevisses. Alors les écrevisses, entre guillemets, une petite anecdote, Mick Jagger adorait ça. Et il est venu des années et des années au restaurant pour manger ses écrevisses.
Et Mick Jagger, à l'époque, c'était déjà une très grande star.
C'était une star quand même.
Très grande star.
C'était déjà une star.
Il est resté, oui.
Oui, c'était déjà une très grande star. Il était marié avec Bianca
Jagger.
Et après avec, comment s'appelle-t-elle? Peu importe. Toujours est-il qu'il adorait ça et le jour où j'ai arrêté d'en faire, il n'est plus jamais venu. On ne parle pas à la bouche pleine. C'est une émission d'Alain Kruger et c'est sur France Culture. I am the little red rooster. Too late, the crow for day. I'm the little red rooster, too lazy to crow for day. Keep everything in the farmyard upset in every way. Alors, il y avait une chose, c'est que j'ai commencé par faire des plats, c'était l'hiver, par faire du gibier. Donc, j'ai fait du lapin de garenne, des palombes, et puis il fallait accompagner les viandes aussi. J'achetais de la très bonne viande aux boucheries Marbeuf à l'époque, elles existaient, mais je ne savais pas avec quoi les accompagner. Puis un jour, j'ai dit, je vais faire une terrine de légumes. Mais pas du tout de mousse et tout. Et ça a été en fait la première terrine de légumes qui est rentrée dans l'histoire de la cuisine. Et après, Pierre Troisgros, dont la femme s'appelle Olympe, a fait une terrine de légumes, puis il l'avait mangée chez moi, il l'a appelée terrine de légumes Olympe.
Et alors Olympe, vous alliez chercher où vos légumes? Vous alliez à Rungis?
Alors, j'allais à Rungis et j'allais au maraîcher. Ils étaient en extérieur, il y avait trois petits pavillons de maraîchers, et là c'était, bon, il fallait y aller très tôt, j'y étais à 5h30 du matin, et on trouvait des produits merveilleux, quoi. Mais les maraîchers avaient un ou deux produits, c'est-à-dire que c'était monsieur qui faisait que les blettes et une certaine variété de salade, Madame Olivier, elle ne vendait que trois variétés de pommes de terre, L'été, il y avait un monsieur qui faisait exclusivement les fraises des bois, les framboises et les fraises.
Les fraises sauvages.
Les fameuses fraises sauvages. Et c'était vraiment formidable. Après, ils les ont installées ailleurs et je n'y suis plus allée.
Et à quel moment vous êtes passé du stade de petit boulot au stade de grand chef? Parce que vous avez été étoilé, enfin, les femmes étoilées au Michelin sont rares, surtout à ce moment-là. Si, il y a bien sûr les mères lyonnaises, mais vous étiez une mère parisienne, en fin de compte.
Voilà. Écoutez, je m'en suis pas vraiment rendu compte. Parce que je travaillais énormément. Je travaillais environ, à l'époque, en plus, le restaurant n'était ouvert que le soir, mais j'étais toute seule en cuisine quand j'ai commencé. Donc, j'avais pas le temps de souffler. Et comme je n'avais jamais travaillé dans un restaurant et jamais appris la cuisine comme on la faisait dans un restaurant, je faisais ça comme je l'aurais fait à la maison. C'est-à-dire qu'au dernier moment, tout était dans la chambre froide et je sortais. Alors j'épluchais les artichauts à la commande de la salade d'artichauts aux écrevisses, par exemple. J'épluchais les haricots verts. Je faisais cuire les salades. Je dressais. Je faisais tout comme ça. Et donc, ça pouvait prendre des heures et des heures. Et on commençait à 8 heures et on arrêtait à 3 heures du matin.
Et Olympe, quand vous avez eu de l'aide dans la cuisine, on vous appelait chef? On vous appelait comment?
Ça leur restait un petit peu en travers de la gorge, hein, m'appeler chef. Ils n'aimaient pas tellement ça.
Pourquoi? Alors
c'était madame, ils se tortillaient dans tous les sens.
C'est dur d'appeler chef une femme?
Oui, parce qu'une jeune femme, à l'époque, il y a 40 ans, l'appeler chef, ça ne se faisait pas sans doute. Il n'y en avait pas beaucoup. Alors ils m'appelaient ou madame ou Olympe.
Vous avez remarqué d'ailleurs, parce qu'on dit très souvent un chef et on dit une cuisinière.
Mais on dit une cuisinière. Et moi, je garde
malgré tout
le nom de chef, parce que après, c'est le rôle du chef. J'ai fait la cuisine, mais aussi j'ai dirigé une brigade. Donc c'était chef.
Les Japonais, ils disent chef.
Oui.
Donc
chef.
Donc
voilà.
C'est la chef.
Oui. Ah, la chef.
Est-ce que vous aimez les anchois?
J'adore les anchois.
Vous les aimez comment, les anchois?
Alors les anchois, je les aime déjà crus, frais, crus, dépiautés au dernier moment, avec un filet d'huile, du poivre et du sel. Voilà, comme les sardines. Après, je les aime beaucoup à l'huile et je les préfère, en fait, salés, dessalés au vinaigre et mis à l'huile ensuite.
Et les anchois des tropiques, vous aimez?
Mais je les adore, les anchois des tropiques, vous pensez?
Bonjour!
Qu'est-ce que c'est?
Vous en avez encore des anchois des tropiques?
Ah non, pour le moment nous en manquons.
Et quand c'est que vous en aurez? Ah, il faut le temps pour les faire. Dans 2 ou 3 mois, quand ils seront mûrs. Et je pourrais en trouver ailleurs? Impossible.
Spécialité de la maison.
Alors tant pis, merci quand même.
Oui.
Au revoir.
Au revoir, monsieur.
Bravo, voilà une pire leçon pour toi. Admire cet enfant. Il nous arrive une catastrophe, un désastre. 50 kilos d'anchois qui moisissent sans rien dire. Eh bien lui, de notre désastre, il fait une spécialité. Il crée un poisson nouveau, un poisson auquel Dieu n'avait pas pensé. Et il en fait une friandise inconnue.
Il a peut-être eu tort de vendre tout le paquet au même épicier, à celui des Acates. Parce que ce paisible village, sa friandise va peut-être le dépeupler en 15 jours. Car le poisson nouveau va les empoisonner.
Eh ben c'est ça, dénigre-le, reproche-lui son initiative. Casimir, je te félicite. Voilà 10 francs pour tes menus plaisirs. Et n'écoute pas les sarcasmes de l'inutile.
Alors l'inutile, bien sûr, c'est le Spoons. Hein.
Ben oui, c'est le Spoons, le fameux Spoons. Il était quand même formidable, hein, ce film.
Et c'est l'inverse de vous, il voulait faire du cinéma.
Il voulait faire du cinéma. Et il y est finalement arrivé.
Ouais. Quand vous écoutez Fernandel, est-ce que vous avez envie de lui faire une recette?
Fernandel, pour moi, c'est la bourride. Et la bourride, je préfère la bourride à la bouillabaisse. Sincèrement, je dois vous dire, la bouillabaisse, surtout aujourd'hui, c'est immonde. Alors, ça sans aucun intérêt.
Si vous nous faites une bourride, qu'est-ce que vous faites?
Alors, une bourride, en revanche, ben, une bourride, c'est fait de poisson blanc. Et on les poche dans un bouillon et on lit ce bouillon de poisson avec l'aioli. Et donc ça fait une sauce onctueuse, parfumée. Il faut pas mettre une quantité d'ail. Moi, j'aime l'ail, mais pas en quantité industrielle. Donc, et ce poisson, dans cette sauce onctueuse et fine, avec du safran, c'est absolument délicieux.
Et vous l'accompagnez avec quoi ?
Ah ben, on l'accompagne normalement de petites pommes de terre pochées dans un bouillon de poisson.
Et Olam Versini, ça ne vous manque pas de ne plus avoir de restaurant aujourd'hui, de ne plus faire la cuisine
Alors, de plus avoir de restaurant, ça ne me manque absolument pas. Au contraire, ça me donne du temps pour faire la cuisine. Parce que finalement, on a l'impression, vous voyez, quand vous voyez des émissions à la télévision...
Parce que vous avez fait ça, vous avez fait la radio, la télévision, des livres. Oui.
Mais les émissions que l'on voit aujourd'hui à la télévision sur la cuisine, il faut quand même le dire, c'est pas ça du tout la cuisine. Ça, c'est le show-off de la cuisine. Ça, c'est une émission de télévision. Mais ce n'est pas le travail d'un cuisinier ou d'un restaurateur. C'est hors de question, ça se passe pas comme ça. Alors maintenant, j'ai du temps, puisque je n'ai plus de restaurant, de faire la cuisine. C'est-à-dire de faire la cuisine et pour ma famille et pour mes amis. Mais j'éprouve beaucoup de plaisir à la faire et j'aime beaucoup la faire pour moi toute seule aussi.
Et qu'est-ce que vous faites, vous, toute seule, par exemple ?
Alors, des tas de choses. Mais là, je suis passée... Là, je vous parle mon dernier dîner. J'ai acheté des bonnes petites pommes de terre et je suis passée par Amsterdam et j'ai acheté des harengs qui ne sont pas saumurés, qui sont frais, qui sont crus et qui sont absolument délicieux. Donc sur la pomme de terre chaude écrasée comme ça à la fourchette, un filet d'huile, beaucoup de poivre et le hareng dessus. Voilà, avec une petite salade et ça c'est merveilleux.
Non, on parle jamais assez des harengs.
C'est bon, les harengs.
C'est délicieux, les harengs. Et qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui veut aujourd'hui devenir chef, qui veut faire comme vous ?
Alors, je conseille à tous les gens qui veulent devenir chef de savoir avant tout que c'est un métier absolument extraordinaire, qui donne beaucoup de satisfaction, qui est très plaisant, mais qui demande environ, quand on travaille, un minimum de 15 heures de travail par jour. Voyez ? Surtout quand on commence. Donc, il faut pas croire qu'on va rentrer chez soi le soir, s'occuper de ses enfants et tout. Non, c'est pas ça. On est complètement dans notre travail et il suffit pas d'être dans la cuisine. Il faut d'abord découvrir les produits, les essayer, les goûter. Et puis, il faut aussi s'occuper de faire marcher son restaurant.
Mais écoutez, merci beaucoup. Olam Versini, et pour un petit cadeau pour se dire au revoir, on va retrouver Fernandel et Ali Baba.
Ali, Ali, Ali Baba, de la mosquée à la casbah. Les petits enfants sont les amis du bon Baba, du brave Ali. Toujours content, jamais pressé, je n'ai qu'à me laisser pousser. Et quand par hasard ça ne va pas, je me dis, Mektoub Inch'Allah. Ali Baba, Ali 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 Baba. Ali Baba, Ali 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 Baba.
Attention, vous, hein. 3, 4.
Tendu la jambe et...
C'était On ne parle pas la bouche pleine, une émission d'Alain Crugère, attaché de production Dominique Competissa, la prise de son est de Philippe Palares, le mixage de Valérie Lavalard et la mise en onde de Delphine Lemaire. Vous pouvez réécouter cette émission pendant 1000 jours et 1000 nuits. Et vous pouvez aussi la télécharger ou la podcaster, c'est la même chose, sur le site de France Culture. Dans quelques instants, le journal.